Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon temps de la Toussaint. Voilà, et vous avez pu relire vos notes. Un petit peu, peut-être, oui, bien sûr. Donc, on va continuer notre parcours. Aujourd'hui, on va aborder l'incarnation. Et Dieu envoya son Fils. Et donc, on aborde ce moment particulier où Dieu décide de sa propre volonté, on parle de la volonté de Dieu, déjà de faire que la parole soit chair, le Verbe s'est fait chair, la parole de Dieu se fait chair, que la promesse de l'Ancien Testament devient salut en Jésus-Christ, et que dans le Nouveau Testament, eh bien Dieu se révèle lui-même en la personne de Jésus. Donc ces trois temps ou ces trois segments sont importants, surtout le dernier où en Jésus-Christ Dieu se révèle et se manifeste, parce qu'il se manifeste en sa personne, c'est-à-dire que en le Fils, en Jésus-Christ, le Père ne se révèle pas autrement que ce qu'il est. Il ne change pas, il n'y a pas de modification en Dieu du fait de l'incarnation du Verbe. Dire cela, c'est aussi nous ramener au cours où on avait abordé l'Ancien et le Nouveau Testament, où on avait dit il n'y a pas de séparation entre l'Ancien et le Nouveau. Donc là, l'histoire du salut nous renvoie bien à l'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament, où l'un va témoigner d'un événement unique qui est la révélation de Dieu, soit par sa parole, soit en son Fils Jésus-Christ. Et donc, je vous parlais de la volonté de Dieu. Donc, je vous rappelle, on avait lu aussi cette phrase de Dei Verbum, « Il a plu à Dieu, dans sa sagesse et sa bonté, de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté. » Donc Dieu choisit à un moment opportun, le moment qu'il juge opportun, il choisit ce moment de se révéler en personne. Donc sa volonté de se faire connaître, de se manifester, c'est une volonté, une décision qui lui appartient. Et lui seul décide de la manière dont il va se révéler. Et ensuite, on verra de la manière dont il veut se manifester. C'est pourquoi, après le temps de la parole, Dieu décide de ce moment opportun, et Dei Verbum nous dit, « Quand la plénitude des temps fut enfin venue, il décida d'envoyer son Fils, son unique, son Logos, le Verbe fait chair. » Et donc on voit bien, pas besoin de vous le dire, le Verbe fait chair renvoie directement au prologue de Jean que nous avions vu la dernière fois. Donc on va aborder l'incarnation un peu plus précisément à partir du prologue de Jean et non plus seulement en l'évoquant. Donc si on regarde donc, le prologue de Jean, oui, je regardais si j'avais un point à vous donner, non, on est toujours dans l'introduction. Pour l'évangile de Jean et de son prologue, donc juste quelques mots d'introduction, parce qu'on n'est pas, je pense que vous aurez des cours en Bible qui vous donneront plus largement des indications historiques. Donc on date l'évangile de Jean plutôt dans les années 90. On sait qu'il y a eu des additions au texte, et ces additions ont été plus tardives. Les additions au texte de Jean, on les date des années 100-110. On attribue aussi la rédaction de l'évangile à Jean, c'est-à-dire le fils de Zébédée, qui est l'un des 12, donc c'est l'un des apôtres. Et dans l'évangile lui-même, on peut dire qu'il s'agit d'un homme qui s'appelle Jean, et qui est identifié comme étant le disciple bien-aimé. En tout cas, c'est ce que nous dit la tradition johannique. Et la tradition johannique a identifié Jean comme tel, comme étant le disciple bien-aimé. Donc, le genre littéraire du prologue, c'est un hymne, comme il y en avait beaucoup à l'époque, un hymne dont la formulation est poétique. Le prologue de Jean est magnifiquement agencé, avec un vocabulaire plutôt simple, mais son agencement fait de lui une caractéristique, enfin fait que c'est une des caractéristiques de cet évangile, à savoir cette formulation tout à fait poétique. Alors, je vous propose qu'on commence, c'est notre point grand 1, le Verbe s'est fait chair, qu'on commence avec le prologue de Jean, précisément, puisqu'il s'agit de l'incarnation. Que nous dit ce prologue ? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu de son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, cette gloire que, Fils unique, plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame : Voici celui dont j'ai, après moi, vient un homme, dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a devancé, parce qu'avant moi, il était. Donc voilà ce texte que vous connaissez bien, où il est question d'un Jean. Oui ?
S'il vous plaît, il est venu.
Alors on va essayer de reprendre ce prologue que vous connaissez bien. Il est d'abord question du commencement. Si on regarde le début, le verset 1 et le verset 15, c'est pas vraiment une inclusion, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on le retrouve au début et à la fin, mais qui n'est pas strictement une inclusion. On a au commencement était le Verbe, et au verset 15 à la fin du prologue, on a avant moi il était. Donc on a bien l'idée d'un commencement, l'idée d'une présence effective, réelle, du Verbe, de la parole, mais qui n'est pas encore la parole incarnée. Et on nous dit, le Verbe était tourné vers Dieu et le Verbe était Dieu. Donc on nous donne l'identité de cette parole. Et cette parole s'est faite chair, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc on a cette parole, cette incarnation dans le monde des hommes et dans l'humanité. Et donc c'est encadré, c'est-à-dire entre « au commencement était le Verbe » et « à la fin, avant moi, il était », on a au verset 9 « le Verbe était la vraie lumière ». Et donc on a cette idée qui vient contredire le logos grec. Vous savez, dans l'idée de Platon, enfin, c'est-à-dire le mélange dans la matière, le Verbe ne vient pas se mélanger dans la matière du monde, mais elle vient illuminer le monde. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Et donc, on pourrait dire que le prologue de Jean va modifier la signification grecque du logos, et va introduire le terme grec de logos dans une compréhension chrétienne et dans une compréhension, on pourrait dire, christologique, de manifestation, de révélation et même d'identité de celui qui est du Père et qui vient du Père. Et celui qui vient du Père est appelé à revenir au Père. C'est pour cela que dans l'évangile de Jean, il y a une récurrence qui est « je vais au Père ». Le « je vais au Père » ou le retour vers le Père, c'est une récurrence chez Jean.
Est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'on entend par « logos » aussi ?
Alors,
la philosophie grecque, on ne trouve pas dans Matthieu, Marc ou Luc.
Oui.
Peut-être Luc, non ?
Oui. En fait, l'évangile de Jean, donc c'est le dernier évangile qui a été rédigé, et donc oui, les synoptiques existaient déjà. Donc les autres évangiles étaient déjà rédigés. La difficulté, c'est cet évangile, l'évangile de Jean, n'a pas été intégré aux synoptiques, d'abord parce qu'il était tardif, et aussi parce que Jean, alors je ne sais pas si je vous l'avais dit à vous, mais la communauté joannique est installée pour beaucoup dans les synagogues. Et dans ce temps de persécution et dans ce temps bien troublé, eh bien, dans les synagogues, à un moment, il a été dit à la communauté joannique, soit vous restez dans la synagogue, soit vous quittez la synagogue. Et la communauté joannique s'est rattachée à la communauté des apôtres.
Dans les synoptiques, finalement, les trois autres, l'incarnation est d'abord en quelque sorte annoncée par un récit, l'annonciation, ouais. Et ensuite par le Christ lui-même, qui parle tout le temps de son Père, le Fils de Dieu.
Ouais.
Alors que là, c'est complètement différent, c'est
oui.
L'introduction de notre
oui.
Nature.
Oui.
En effet, je sais pas, peut-être pas philosophie, c'est pas le bon mot, c'est un autre oui. Niveau.
Oui.
C'est tout à fait nouveau par rapport aussi.
Oui, et puis l'évangile de Jean est rédigé...
du prologue.
Du prologue, mais si on prend tout l'évangile de Jean, il ne peut pas être mis en synoptique avec les autres évangiles. Il y a des choses qui ne sont pas dans l'évangile de Jean. On a le lavement des pieds, pas la scène. Comme dans les autres évangiles, on peut identifier des ajouts, les deux conclusions dans l'évangile de Jean. Voilà. Et c'est un évangile qui parfois a été considéré comme un peu gnostique, un peu parce que très 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 mystique, très faisant appel à une manière très, très éloignée de la manière rédactionnelle des autres évangiles.
Vous dites que Jean, c'est l'inspiration.
Oui, oui, oui. Ouais. Mais heureusement que la communauté joannique s'est rattachée à la communauté des apôtres, sinon on n'aurait pas cet évangile merveilleux qu'est l'évangile de Jean. Et encore une fois, dont le vocabulaire est d'une simplicité, il n'y a pas de mots compliqués chez Jean. Mais l'agencement des phrases, l'agencement du vocabulaire fait que ça fait de cet évangile presque un poème à bien des aspects. Et puis en même temps, une lecture mystérieuse, on a du mal à comprendre parfois certains passages de l'évangile de Jean.
La dernière chose, quand Jean parle oui. De Jean, il parle pas de lui.
Alors, ces versets 6 à 8. Où il est question de Jean-Baptiste, on pourrait même faire un parallèle avec le verset 15, « Avant moi, il était ». Et quand on lit « Avant moi, il était », je ne sais pas si vous vous souvenez du cantique de Zacharie, qu'on peut dire tous les jours dans nos prières, dans ce cantique de Zacharie, il dit « Il marche devant à la face du Seigneur ». Et ça, marcher devant à la face du Seigneur. Donc on n'imagine pas que le Seigneur tourne le dos en marchant. Et donc, il était, avant moi, il était. Ça fait écho à ce verset du cantique de Zacharie. Ensuite, si on continue sur la parole de Dieu qui est adressée au prophète. Cette parole, elle marque l'intervention de Dieu dans le monde, mais dans l'histoire des hommes, pas simplement à un moment donné, pas simplement au moment de l'incarnation. Le prologue nous renvoie aussi à ce moment de l'Ancien Testament. on pourrait passer, après vos questions, au point 1.1, le logos comme acte d'extériorisation. Comprendre le logos comme un acte d'extériorisation. C'est-à-dire essayer de comprendre le logos de Dieu, ou Dieu lui-même, à partir de sa communication et de sa manifestation. Parce que lorsque Dieu se manifeste et s'extériorise, eh bien, il s'extériorise, pour ainsi dire, dans le monde. Et la raison de cette extériorisation, c'est le salut des hommes. Il y a non seulement une volonté de s'extérioriser, mais il y a aussi une volonté, une action de sauver. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la manifestation de Dieu ou que l'incarnation de Dieu n'est pas accidentelle. Elle part d'une décision. Et donc, cette extériorisation de Dieu lui-même et en lui-même et par lui-même, elle a lieu en vue du salut et en vue de pénétrer les événements de l'histoire. Dieu entre dans l'histoire. Il entre dans l'histoire des hommes. Dites-moi.
C'est très très bien expliqué dans l'Ancien Testament. Quand on prend toute l'histoire de l'Ancien Testament,
oui.
À partir du moment où Dieu a choisi le peuple hébreu, et qu'il lui demande, et qu'il lui dit « Je suis votre Dieu unique », etc., par Moïse et l'État.
Oui, oui.
Eh bien, le peuple fait souvent beaucoup de bêtises.
Oui.
Beaucoup de reniements, si l'on peut dire.
Oui.
Et en fait, tellement, tellement tout au long de l'Ancien Testament,
oui.
Que finalement, et ça c'est bien, bien dit, et bien finalement, il comprend que la parole ne suffit pas pour que le peuple vraiment comprenne ce qu'il est. Et il me dit que l'Ancien Testament, et bien à un moment, quand il comprend, il décide de descendre sur terre par son fils.
Alors là, c'est dans votre interprétation et dans votre compréhension,
oui.
Qui n'est pas fausse, ce n'est pas la question. La question, c'est que vous voyez bien, vous posez un déroulement chronologique et un déroulement des faits logique. On ne peut pas, par rapport à Dieu et à sa volonté et à la décision, on ne peut pas transposer une logique et une chronologie. Parce que, en fait, si le peuple... Et vous l'avez dit, c'est vrai, à plusieurs reprises, ils rompent l'alliance avec Dieu, mais Dieu toujours reste fidèle à son peuple. En même temps, le peuple comprend que la parole que Dieu prononce est une parole qui est active, c'est-à-dire que ce qu'il dit, il le réalise et il le fait. Donc la confiance du peuple, elle vient aussi de cette parole qui est une parole agissante. Vous voyez ? Donc la parole, elle est aussi action. Hein, c'est le dabar en hébreu. Donc je ne sais pas si c'était par rapport à quel...
Parce que si vous voulez, peut-être que c'est expliqué dans cet après-midi.
Oui.
Au bout d'un moment, on pourrait... Mais ce n'est pas le mot juste.
Dis-toi.
Au bout d'un moment, on pourrait dire qu'il y a une lassitude de Dieu devant ce peuple qui ne comprend pas.
Oui, sauf que Dieu ne se lasse pas.
Il ne sait jamais.
Mais jamais.
Mais il décide de changer de méthode.
Oui, c'est pas...
Alors...
Je crois que la parole seule
ouais.
Aboutit à des tas d'égarements. Eh bien, il ne se lasse pas, mais... Il finit par comprendre que ce n'était pas la bonne méthode. Il faut complémenter la première méthode.
Là, si vous voulez, la situation, ce serait, d'après ce que vous dites, vous voyez bien qu'on ne peut pas transposer sur... sur Dieu des
stratégies marketing.
Alors, pas forcément des stratégies, mais on ne peut pas transposer sur Dieu des méthodes.
Alors pourquoi, à ce moment-là,
on ne peut pas prêter à Dieu de changer de méthode, vous voyez?
Non, c'est pas ça, c'est pas le bon mot. Mais pourquoi à ce moment-là, puisque son peuple n'arrêtait pas de s'égarer, a-t-il attendu aussi longtemps avant de décider de se faire chef?
Oui, mais alors, vous voyez, on ne peut pas non plus juger du temps de Dieu. Dieu décide au moment opportun. Et vous voyez bien, la difficulté, c'est que quand on prête à Dieu un raisonnement humain, on est dans l'impasse. Voilà, on ne peut pas prêter à Dieu un raisonnement logique, un raisonnement rationnel. Tout ce qu'on peut dire à partir de votre réflexion, c'est que Dieu s'adapte à sa créature. Voilà. Mais s'adapter, ça ne veut pas dire changer de méthode. Dieu n'intellectualise pas ce qu'il fait.
L'incarnation est quand même un énorme changement de méthode par rapport à...
Oui, mais vous voyez bien que le terme de méthode est inapproprié par rapport à Dieu.
Je pense à la question du choix du moment. Est-ce qu'il y a eu, dans l'histoire de toutes les clauses, des idées tenant à ce que Dieu a choisi d'intervenir à un moment où l'Ancien Testament, et notamment l'évolution peut-être de la religion juive, dont le Christ parle beaucoup quand même, les pharisiens, etc., rendait, peut-être pas nécessaire bien sûr, mais indiquait que le moment était venu peut-être pour Dieu, dans son esprit, de choisir la méthode de l'incarnation.
Oui, mais vous voyez là, on essaye d'interpréter ce moment à partir de faits de l'histoire ou à partir de l'histoire des évangiles. Mais on voit bien que, de toute façon, on n'aura pas la réponse.
Non,
c'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est pas qu'il se révèle, c'est pourquoi il se révèle. Et ce n'est même pas le comment, mais c'est le pourquoi. Enfin, comment, en même temps, ça reste aussi un mystère. Mais sa volonté elle-même est un mystère pour nous. Déjà, le fait qu'il se révèle, on aurait pu
être parfait dès le départ aussi. Hein,
Tout ce qu'on peut dire, c'est que... Ouais. On ne connaît pas les raisons de son choix, mais le fait est en tout cas que c'est très mêlé à la religion juive telle qu'elle était avant.
Oui, mais vous voyez bien, il n'y a pas de religion juive. Oui, mais la religion juive n'existe pas au moment d'Abraham. Dieu se révèle au temps d'Abraham.
Non, mais au moment où le Christ arrive.
À l'état de conscience des hommes, peut-être.
Je parle de...
Je vais arrêter le... Si je reprends par rapport à ce terme de logos, et puis après on passera à autre chose. Quand je vous disais qu'il renvoyait à la philosophie grecque, et pourquoi Jean avait modifié, renversé la vapeur en quelque sorte, en faisant de ce terme une compréhension chrétienne, c'est parce que le logos est devenu un théolégon, un Dieu qui parle. C'est cela, c'est pas simplement le verbe ou la parole, mais c'est théos légon, c'est Dieu qui parle, Dieu a parlé. Et du fait que Dieu a parlé, alors il s'adresse à un tu, il s'adresse à un autre, et le dialogue, et Dei Verbum nous dit, il s'adresse aux hommes comme à des amis. Et donc les premiers pères de l'Église à avoir utilisé le terme de logos, enfin de théos légon, de Dieu qui parle ou Dieu a parlé, ce sont Origène. Alors Origène, c'est 185-253 ou 254, on ne sait pas trop, et Eusèbe de Césarée. Alors Eusèbe, c'est un petit peu plus tard, enfin c'est juste après, c'est 265-339. Donc là, on est au IIIe siècle, vous voyez. Et donc, Eusèbe de Césarée et Origène, ont assuré dans leur discours sur Dieu, ils ont assuré l'orthodoxie d'un discours. On leur doit à tous les deux d'avoir marqué la différence entre un discours grec et un discours chrétien, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte d'émanciper le discours sur Dieu de toute consonance mythologique grecque. Et ainsi, l'interprétation du terme de logos, comme Dieu parle, eh bien, a pu entrer dans le vocabulaire chrétien, sans ambiguïté. Donc il faut avoir maintenant en tête, logos, c'est Dieu parle, ou Dieu qui parle. Donc ça veut dire qu'il y a eu la mise en œuvre d'un processus d'appropriation. Il y a ça aussi, c'est que ce processus d'appropriation d'un vocabulaire qui devient chrétien et qui continue dans les générations à être adapté et à être approprié. C'est-à-dire les chrétiens s'approprient un langage. Alors on parlait tout à l'heure, on posait la question sur le commencement. Si on lit Genèse 1-2, on lit « Au commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre, la terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. » Donc on voit bien que ce commencement, c'est le commencement de la création, mais le commencement de la création ne signifie pas que Dieu n'était pas avant, il était de tout temps. Donc le Logos, on doit le considérer comme faisant partie de la révélation. Ce n'est pas quelque chose qui serait en dehors de la révélation. D'abord parce que c'est un événement en tant qu'événement d'incarnation. Le Logos fait chair, le Verbe fait chair, c'est un événement. Dans l'histoire du salut, c'est un événement. Et que cet événement trouve son origine dans la création et trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Alors on pourrait dire aussi que c'est un événement, eh bien parce que Dieu va trouver sa voie d'expression par le Christ. Sa voie d'expression, lorsque le Christ choisit des hommes, on est renvoyé aussi à l'élection, lorsqu'il enseigne, lorsque sa parole guérit et guérit immédiatement, comme dans les miracles, on est bien dans une présence du Logos, du Dieu qui parle et qui agit en personne et en la personne du Christ. C'est pourquoi le Logos fait bien partie de la révélation et qui trouve bien son origine dans un événement qui est un événement premier au moment de la création. Je regarde que je ne vous redise pas les mêmes choses. Alors on pourrait peut-être arriver aux raisons de l'incarnation. C'est le point 1-2, les raisons de l'incarnation. Et on peut revenir au Père de l'Église, justement, parce que par leurs nombreuses homélies, et puis leurs écrits, qui étaient quand même nombreux, en raison des nombreuses hérésies à leur époque, eh bien les Pères de l'Église ont pensé et ont élaboré une argumentation théologique. Alors bien sûr, ils ne pensaient pas faire de la théologie, ils n'avaient pas conscience qu'ils faisaient de la théologie. Mais en répondant aux hérésies de leur époque, ils ont fait de la théologie, c'est-à-dire ils ont élaboré un discours théologique en réponse aux hérésies de leur époque. Et leurs réponses étaient essentiellement des réponses, on dirait, sotériologiques, qui ont à voir avec le salut, soter en grec, le salut, sauver. Et donc les raisons concernant le salut de Dieu à destination des hommes, est ce que les pères de l'Église ont mis en œuvre dans un discours ? Ils ont mis en œuvre ce discours pour faire comprendre l'événement de l'incarnation. Comment l'incarnation était aussi un événement de salut, Et c'est le théologien Karl Barth qui dira « L'incarnation est avant tout œuvre de rédemption ». Vous voyez ? Donc le lien de l'incarnation au salut, elle est très tôt comprise. On pourrait même parler d'intentionnalité divine. Intentionnalité divine parce que l'incarnation, elle est pour l'homme, en vue du salut. Et Dei Verbum va même parler de filiation adoptive, pour que nous devenions participants de la nature divine. Ou encore, afin de faire de nous cela même qu'il est. Et donc, si le salut vient du Christ et que toute la révélation est accomplie en sa personne, par sa mort et sa résurrection, alors cela nous renvoie à la double nature de la personne du Christ, à sa nature divine et à sa nature humaine. Et donc à l'affirmation conciliaire de Chalcédoine en 451, Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, double nature, Jésus-Christ est vraiment homme, c'est-à-dire pleinement, totalement, réellement homme et réellement Dieu. Il n'y a pas de confusion des natures. Mais ça, on en parlera au cours 7 sur la Trinité. Donc, en Jésus-Christ, il n'y a pas de séparation des natures. Jésus-Christ, dans la mission qu'il a à accomplir, puisque cette mission, il la reçoit du Père, cette mission, c'est une mission en vue du salut. Il est connu d'abord comme Jésus de Nazareth. Sa mission, il l'amène comme il l'entend. Il choisit les hommes qu'il veut voir auprès de lui, c'est-à-dire ceux à qui il veut confier, au moment opportun, confier la mission qu'il a reçue du Père. Mais dans un premier temps, cette mission, on pourrait dire qu'elle l'amène à la croix, que sa mission l'amène, sa mission est un échec pour ainsi dire, puisque la fin de sa mission se ponctue à la croix. Donc on pourrait éventuellement considérer que l'incarnation du Fils est une incarnation en vue du salut, mais que ce salut qui mène le Fils à la croix est un échec à la fois pour Dieu et à la fois pour le Fils. La réponse à cet échec, entre guillemets, c'est la résurrection. C'est-à-dire que la résurrection, elle vient affirmer, confirmer, assurer la révélation du Fils de Dieu, alors même que la mission va être transmise aux apôtres. Est-ce que ça vous...
Oui.
Ça va ?
C'est assez costaud, mais ça va.
Ça veut dire que l'incarnation, qui est vue à juste titre par Karl Barth comme étant l'incarnation est d'abord œuvre de rédemption, eh bien, on voit bien que l'incarnation, par la résurrection et en raison même de la résurrection vient confirmer que l'incarnation du Fils, elle est en vue du salut et que la réponse définitive de ce salut s'accomplit en la résurrection du Christ. Parole, incarnation, résurrection. Et là, on a le salut. Sauf que, on ne peut pas dissocier la résurrection de la mort. Et que la mort et la résurrection, c'est un tout. Jésus peut ressusciter d'abord parce qu'il est mort comme un homme, mais pas comme tous les hommes. Hein, il est mort condamné à mort. C'est pour ça qu'on ne dissocie pas la crucifixion de la résurrection. Mais la réponse finale, définitive, qui accomplit toute la révélation, elle est dans la résurrection, dans l'acte de ressusciter le Fils. Est-ce que vous voyez le cheminement économique depuis la parole, comme au commencement était le Verbe s'est fait chair, et ce Verbe, le salut de Dieu, s'est accompli totalement, définitivement, dans la mort et la résurrection. Est-ce que ça va pour vous, ça ? Eh bien, les pères de l'Église ont compris cet événement et ont mis un discours sur Dieu à partir de l'événement total de la révélation qui a permis de comprendre cette économie de la révélation de Dieu à partir du moment où il apparaît dans le monde, où il devient cette lumière dont parle Jean. Et donc les pères de l'Église ont pu affirmer la constitution du Christ comme étant vraiment et pleinement Dieu, vraiment et pleinement homme, c'est-à-dire ce que le Concile de Chalcédoine a affirmé.
Ce qu'avait fait saint Paul avant aussi.
Non, je pense pas.
Oh, lui, il avait bien expliqué quand même. Non. Saint Paul, quand on lit, il explique bien.
Pas dans ces termes-là.
Oui.
Pas dans
son
ces
approche,
termes-là.
Son approche.
Alors, on va relire saint Paul, alors, mais je pense pas dans ces termes-là. Donc, en fait, on arrive au Fils de Dieu fait homme. Et l'incarnation, Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme, c'est l'œuvre de Jésus que l'on regarde maintenant, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui ne peut pas être séparé en sa personne, qui est unique. Le Concile de Chalcédoine nous dit seul et même, il est un et il est unique. On ne peut pas séparer les deux natures du Christ en sa personne. Les deux natures ne peuvent pas fusionner. La nature humaine ne peut pas fusionner avec la nature divine. Ça veut dire que l'une des natures ne peut pas absorber l'autre et vice-versa. Donc la personne du Christ, les deux natures dans sa personne sont unies, sans confusion, sans changement, sans séparation et sans distinction. Ça, c'est l'affirmation de Chalcédoine contre l'hérésie de Nestorius et l'hérésie de Tichès. Parce qu'il y en a un, donc par exemple Eutychès, il affirmait que la nature humaine et la nature divine de Jésus étaient unies. Elles étaient comme en elle fusionnait, donc ça c'est pas possible, l'une ne peut pas absorber l'autre. Et donc tout l'enjeu du concile aura été de contrer toutes les questions légitimes, parce qu'on peut pas dire que c'était pas légitime, il était légitime de se poser des questions là. Mais on voit bien que ces questions, elles ont amené l'Église à consolider les mots de la foi, à normer la foi, à faire en sorte que les règles de foi et que la confession de la foi passent par les mêmes mots, parce que la foi, elle est pour tous. Et on ne doit pas, chacun, chacune, exprimer la foi de l'Église avec d'autres mots que les règles de foi normatives de l'Église. C'est pour ça que le credo, nous avons tous le même credo, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, c'est la normativité de la foi que l'on doit aux affirmations conciliaires dont les hérésies ont aidé quand même, parce que heureusement que ces questions-là se sont posées, parce que ces questions-là, elles ont aidé l'Église à affirmer les règles de la foi dans un langage non ambigu.
Filioque.
Le filioque.
Après.
Ouais. Ça, après, on est plus tardivement, mais c'est vrai que le filioque, c'est quand même dommage, parce que finalement, que l'esprit procède du Père et du Fils, ou qu'il procède du Père par le Fils, les deux sont valables, il n'y en a pas un contre l'autre. Mais c'est une manière différente.
Jean, il procède du Père.
Oui, et on pourrait dire que dans l'évangile de Jean, l'esprit procède du Père par le Fils. Hein, on est un peu dans cette...
Vous avez dit les deux natures du Christ, elles sont unies, elles sont quoi, les deux ?
Alors, la personne du Christ, en la personne du Christ, il y a deux natures, c'est ce qu'on fait, voilà, le Concile de Chalcédoine, nature humaine et nature divine. Donc, le Christ est vraiment homme et vraiment Dieu.
Mais elles ne sont pas unies, c'est ça que vous avez dit ?
Il y a union des deux natures, mais il n'y a pas confusion des deux natures, il n'y a pas fusion. Voilà.
S'il vous plaît, bon là c'est le credo de Chalcédoine.
À Chalcédoine, ce n'est pas différent. Dans la définition conciliaire, il est toujours écrit que le Fils est consubstantiel au Père, donc il est consubstantiel au Père en sa divinité, mais le Concile va rajouter, il est consubstantiel à nous, en notre humanité. Et ça, c'est différent. Ça, c'est en plus. Et donc, ça, c'est important parce que ça rejoint ce que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, où il dit, où le Christ dit, je m'adresse à vous comme à des amis, ou je fais de vous des fils et des filles adoptives, ou vous êtes rendus participants de la nature divine. Ça veut dire qu'en rajoutant le consubstantiel à nous au titre de notre humanité, ça veut dire que le Christ, la personne du Christ, vient dans le monde, habite le monde, sauve le monde et nous associe, nous intègre dans cette dynamique divine. C'est-à-dire nous sommes rendus participants de la divinité même du Christ. Ce qui veut dire que la présence divine de Jésus, Fils de Dieu sur terre, vient nous révéler notre humanité. Comment vous dire ça autrement ? Si on veut parler en termes de, non pas de proportionnalité, mais notre humanité est révélée par la divine... Comment vous dire ça ? L'humanité du Christ, en sa divinité, puisque je ne sépare pas les deux, vient nous révéler notre humanité. Nous ne sommes pas moins humains, nous sommes par la divinité et l'humanité du Christ, nous sommes plus humains, je ne sais pas comment on voit, nous sommes plus intégrés dans une humanité. Ce n'est pas en proportion inverse, voilà, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, la divinité du Christ n'est pas en proportion inverse de notre humanité. C'est-à-dire que plus nous sommes...
Plus on sera...
Nous sommes de plus en... Par le Christ, nous sommes humanisés, c'est ça. C'est-à-dire qu'il nous révèle notre humanité.
Pouvez-vous nous définir exactement ce que vous entendez par humanité ?
Eh bien, on pourrait dire par humanité l'attitude de Jésus. Quand on lit les évangiles, l'attitude de Jésus, sa manière d'être avec le groupe proche, avec la foule, sa manière d'éprouver de la peine à la mort de Lazare, sa manière d'éprouver de la compassion en voyant la foule affamée, sa manière d'être dans le monde. Lui, fils de Dieu, divin, par sa nature divine, eh bien, va révéler à ceux qui les entourent, à ceux qui l'entourent, va révéler une manière d'être en humanité. C'est ça. C'est pour ça que je vous disais que ce n'est pas la divinisation de Jésus n'est pas en proportion inverse de notre humanité. En nous divinisant, il n'est pas moins humain, il n'est pas moins divin. Et nous, nous sommes humanisés, c'est-à-dire nous sommes intégrés dans une humanité vraie. Le lieu de la déshumanisation, ça sera la crucifixion de Jésus. À la crucifixion, c'est l'humanité même qui est crucifiée. C'est-à-dire que là, on est face à la déshumanisation totale. La résurrection vient rétablir l'humanité de l'homme en l'espérance d'une humanité meilleure, d'un bien, d'un bon et d'un vrai, pour reprendre les transcendantaux de saint Thomas, vous voyez.
Mais c'est parce que le dictionnaire ne faisait pas du tout comprendre ça, hein, la définition du dictionnaire de l'Académie française.
Sur l'humanité. Oui, c'est vrai.
Bon, c'est pour ça que je vous demande de préciser, parce que je
voulais
comprendre le sens.
Oui. 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 Le Christ nous rend à une humanité, ben je dirais originelle, c'est-à-dire ce que devrait, c'est bon. Alors évidemment, Adam et Ève n'ont pas existé, mais vous voyez bien, c'est-à-dire ce moment heureux, ce moment où on est, où on vit comme créature créée par Dieu. Où l'humanité est tout simplement comme Dieu est dès le commencement. Et bien cette humanité-là, parce qu'on est différent de Dieu, l'humanité elle est en devenir. Et qu'un homme mauvais peut devenir un homme bon et vice-versa. C'est-à-dire que le devenir, il a un versant positif et un versant négatif. Est-ce que ça va pour vous ?
Oui.
Alors on peut reprendre pour mieux comprendre cela, l'enjeu que représente le Concile de Chalcédoine pour la confession de foi. C'est-à-dire on pourrait prendre deux points concernant le Christ. Jésus, il assume les réalités humaines, il les assume, il va jusqu'à la mort, il assume la mort, il assume la souffrance, donc il assume les réalités humaines. Mais en même temps, il va accomplir en lui-même les réalités divines. Vous voyez la différence ? Il va assumer l'humanité, il va assumer la réalité humaine et toutes les réalités humaines, mais dans le même temps, il accomplit en lui-même toutes les réalités divines. Il n'y a pas de séparation. Il assume tout cela. Et donc la constitution dogmatique de Dei Verbum, elle insiste sur cette action divine et sur la médiation du Fils, justement dans l'achèvement de la révélation. Voilà ce que le paragraphe 4 nous dit. Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, homme envoyé aux hommes, prononce les paroles de Dieu et achève l'œuvre de salut que le Père lui a donnée à faire. C'est donc lui... Le voir, c'est voir le Père, qui par toute sa présence et par la manifestation qu'il fait de lui-même, par ses paroles et ses œuvres, par ses signes et ses miracles, et plus particulièrement par sa mort et sa résurrection glorieuse d'entre les morts, par l'envoi enfin de l'Esprit de vérité, achève en accomplissant la révélation et la confirme encore, en attestant divinement que Dieu lui-même est avec nous pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour la vie éternelle. On voit bien que là, il y a une union intime entre les réalités humaines et les réalités divines. Il y a bien une présence, il y a bien une manifestation, et une manifestation glorieuse par la résurrection qui va attester que Jésus est bien le Fils de Dieu et que cette résurrection, elle est en vue de notre propre résurrection, de notre propre salut, hein, en vue de nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et de nous ressusciter pour la vie éternelle. Donc on pourrait dire qu'il y a dans le Christ une synthèse entre Dieu et l'homme. Et donc la double nature du Christ doit être comprise comme une voie de médiation. Parce que l'humanité de Jésus, sa nature humaine, je ne dirais pas que c'est la voie médiatrice, parce que c'est lui-même dans sa personne en entier qui est le médiateur du Père. Mais pour nous amener vers le Père, il faut que Dieu soit déjà parmi nous en la personne de Jésus. « Qui m'a vu a vu le Père », dit Jean. Donc c'est sa personne en lui-même qui est la médiation. C'est lui qui est le médiateur. Ce n'est pas son humanité qui aurait été utilisée pour, comme un instrument pour être la médiation vers le Père. Vous voyez, Dieu n'instrumentalise pas l'humanité du Fils. Mais par l'humanité du Fils, il va accomplir la révélation totale de Dieu pour l'humanité, enfin pour les hommes. Est-ce que vous comprenez cette manière-là, peut-être, de dire les choses ? On n'est pas des pantins, c'est ça, vous voyez ? Et Jésus n'est pas un pantin. Il est vraiment, il assume pleinement cette réalité humaine. Parce que c'est par cette réalité humaine qu'il peut parler aux hommes, qu'il peut les guérir, qu'il peut les enseigner.
Par sa compassion, on pourrait dire.
Ben, sa compassion.
Sa compassion et son identification.
Jésus pleure à la mort de Lazare. Oui, oui. Jésus craint que les... Voilà. Donc ça veut dire que toutes les réalités humaines, il les assume.
Il les connaît.
Il les connaît, il les assume, y compris l'angoisse au moment de mourir sur le mont Golgotha. Éloigne de moi cette coupe si tu le peux. Voyez, donc toutes ces réalités humaines ne sont pas feintes. Jésus ne fait pas semblant de souffrir. Il souffre réellement sur la croix, donc il assume tout cela. Mais dans sa réalité divine, il est là pour accomplir un dessein, accomplir cette mission de salut que le Père lui a confiée. Donc Jésus-Christ est bien le médiateur, et que son humanité n'est pas simplement une voie médiatrice, c'est lui-même qui est le médiateur, c'est notre point 2.1. Jésus-Christ, Fils de Dieu et médiateur du Père. Lorsque l'on dit cela, eh bien l'on dit que nul, et l'on comprend que nul n'accède au Père en dehors de Jésus, et qu'il est le seul par qui on peut aller vers le Père. Il est le seul médiateur. Et donc cette médiation, elle s'origine dans la volonté du Père. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un médiateur, son Fils, pour amener le monde à lui, et que le monde vienne vers lui. Donc ça aussi, cela fait partie de sa volonté. On parlait tout à l'heure d'acte d'extériorisation. Eh bien, cela aussi, c'est un acte d'extériorisation.
Est-ce que ça voudrait dire qu'on ne s'adresse jamais au Père sans le Fils ?
Eh bien, on peut s'adresser au Père, mais si on s'adresse au Père, ça veut dire qu'on doit avoir dans l'esprit la Trinité, Père, Fils et Esprit. Alors, c'est vrai que dans la Trinité, quand on prie, parfois, des fois, on a tendance à être plus vers le Père, ou plus prier le Fils, et oublier l'Esprit, ou plus prier l'Esprit, oublier le Père et le Fils. Ce qui est important, et c'est là où les conciles ont affirmé de manière normative la foi, et de manière de pouvoir confesser la foi, c'est que lorsque l'on dit le credo, où là la Trinité est bien signifiée dans le credo, dans tous les éléments, eh bien, on peut personnellement prier plus le Fils et moins les autres personnes de la Trinité, mais lorsque l'on dit le credo, on rassemble toutes les personnes de la Trinité. Et le credo dit ensemble, en communauté, permet précisément d'être soutenu par la communauté. C'est-à-dire, on peut prier dire le credo ensemble et puis se dire, moi je prie plus le Père, ou avoir une intention plus sur le Père. Eh bien, il faut se dire, et c'est Louis-Marie Chauvet qui dit ça, le père Louis-Marie Chauvet, il dit « La communauté fait que lorsque l'on dit le credo ensemble, on est porté sur la partie un peu bancale de notre foi. » Et ça, c'est une dimension qu'il faut avoir dans le credo. Alors oui, je ne sais pas si ça rejoint votre question, oui, on peut prier le Père, Mais si on prie le Père, on doit avoir en tête les trois personnes de la Trinité.
De toute façon, il faut qu'il y ait une fluidité entre tous. C'est ce que disait pas le théologien Maurice Oudel, il parlait de ça, de la Trinité, où c'est un fluide permanent de l'un à l'autre. Enfin, il faut avoir tout en tête de façon
oui.
pas distincte. Mmh.
Voilà, alors en théologie, on va parler de procession. Il y a de la procession entre les trois personnes de la Trinité. C'est-à-dire qu'il y a communication. Alors, je vous ai sélectionné un texte de saint Thomas dans la Somme théologique où il est question du Dieu Père qui attire à lui tous les hommes justement par la médiation du Fils. Et saint Thomas va parler d'œuvre d'incarnation. Donc il dit « L'œuvre d'incarnation, l'œuvre de l'incarnation provient de l'immense amour de Dieu, selon saint Paul. » Dieu, dans la richesse de sa miséricorde et poussé par le grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par la suite de nos fautes, nous a rendu la vie avec le Christ. Mais l'amour se porte sans retard au secours de l'ami dans le besoin. Il est écrit en effet, « Ne dis pas à ton ami, va-t'en, repasse, je te donnerai demain, quand tu peux donner sur l'heure. » Il semble donc que Dieu ne devait pas retarder l'œuvre de l'incarnation, mais venir dès le début au secours du genre humain par l'incarnation. Voyez, il semble donc que Dieu ne devait pas retarder l'œuvre de l'incarnation, mais venir dès le début au secours du genre humain par l'incarnation.
Dès le début de quoi ?
Avant Jésus, il y a eu pas mal d'hommes quand même.
Oui, mais c'est dès le début. Ça veut dire que le dessein de Dieu de créer les hommes, le dessein de Dieu de les sauver, c'est pas quelque chose qui s'inscrit dans une chronologie. C'est quelque chose qui s'inscrit dès le début dans la volonté de Dieu. Dieu n'aurait pas créé le monde s'il n'avait pas pour le monde, de l'amour pour le monde, et donc l'amour est... l'élan de le sauver, le dessein, le plan de le sauver. Vous voyez, je pense que on a une vision chronologique du début et de la fin. Ce qui fait que on se dit, avant Jésus, bien sûr, il y avait les hommes. Après, on peut remonter comme ça jusqu'au Big Bang. Bon, après, la question, c'est qui a créé le Big Bang ? Bon, voilà. Mais en fait, on est... Et je comprends que ce soit piégeant pour nous, parce que dans notre logique, il y a un début, il y a un commencement. Et que de ce début, de ce commencement, on a l'impression que c'est un segment, et qu'au-delà du segment avant et du segment après, c'est pas qu'il n'y a rien, mais que ça nous échappe tellement... qu'en fait, on ne peut pas poser de raisonnement rationnel. Parce qu'on n'a pas de repère événementiel. Alors, sinon de l'histoire, bien sûr, mais concernant Dieu, on n'a pas de...
Mais peut-être une manière de s'en sortir et de dire que la chronologie Dieu n'est pas la même que la chronologie...
Oui, c'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est atemporel, il est anhistorique. C'est-à-dire qu'il est dans l'histoire, mais il n'est pas de l'histoire.
C'est Augustin qui a écrit là-dessus sur le temps de Dieu.
C'est possible.
Ce qui est un peu troublant, c'est qu'on a l'impression que le Vatican efface l'Ancien Testament, qui aurait dû commencer tout de suite par l'incarnation.
Par l'incarnation.
Sans passer par Abraham.
Oui, oui.
Enfin bon.
Oui, mais en même temps, vous voyez, en même temps, l'incarnation, il la voit comme un lieu de rédemption et de salut. Donc.
Il n'y a pas de chronologie, mais il y a. Il y a une séquence, il y a une continuité.
Il y a un mouvement, il y a une économie. Souvenez-vous le premier cours, il y a une économie, il y a un mouvement, il y a une dynamique. Une dynamique qui n'appartient qu'à Dieu. Oui, monsieur, vous vouliez poser une question.
Non, je disais simplement qu'on est enfermé dans le paradoxe du temps.
Ouais.
La temporalité qui a été soulignée par Kierkegaard,
ouais.
Et qui contrait Hegel là-dessus,
ouais.
Qui lui confondait l'éternité,
ouais,
et le temporel.
Ouais.
Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il est bien évident qu'on n'est pas du tout armé pour comprendre ce qui se passe, ouais. En dehors,
ouais,
de, ce,
ouais.
de cet axe temporel.
Ouais.
Donc Dieu étant atemporel par définition, il est bien évident que la réalité de Dieu nous échappe au sens strict du terme, elle nous échappera toujours.
Oui, oui.
Tant qu'on est enfermé dans le temps.
Oui. Il y a la temporalité de Dieu qui n'est pas notre temporalité. Et il y a aussi, et la deuxième chose qui nous échappe, c'est, on en parlait au début du cours, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la volonté. On peut comprendre le moteur de Dieu, c'est l'amour pour les hommes et l'amour pour sa création, mais la volonté, sa volonté, on ne sait pas, elle demeure un mystère.
Mais elle restera jusqu'au bout, non ?
Ah ben oui, je pense que, enfin, un moment, je ne sais pas, peut-être à notre mort, peut-être qu'on aura des choses. Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Dites-moi.
Je sens donc que Dieu ne devait pas repartir lors de l'incarnation, mais venir dès le début au secours du genre humain par l'incarnation.
Ça veut dire que l'œuvre de rédemption, elle est déjà inscrite dans l'incarnation de Dieu. Dans l'incarnation du Fils de Dieu. Mais cette œuvre de rédemption, elle, elle est inscrite dès le début de la révélation. C'est-à-dire que le dessein de Dieu de sauver les hommes, il est inscrit dès le début. Alors le moyen que Dieu se donne au moment opportun, qu'il a jugé lui opportun, c'est l'incarnation. On doit peut-être penser en termes d'économie, c'est-à-dire en termes de mouvement, de dynamique, et que cette dynamique, elle appartient à Dieu. Alors Dieu, on pourrait dire, analogiquement, pour nous permettre de comprendre, Dieu se donne des étapes dans sa révélation. Alors, on ne va pas parler de méthode, mais on va parler d'étapes, une continuité. Et que dans ces étapes-là, y compris dans l'étape de l'incarnation, Dieu n'est pas moins Dieu lorsqu'il s'incarne. Il demeure le Dieu de tous les temps. Et Jésus-Christ, fils de Dieu, n'est pas moins fils de Dieu lorsqu'il meurt comme un homme sur la croix. Il demeure Jésus-Christ, fils de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans l'extériorisation de Dieu dans le monde, par sa parole, par son incarnation, par la mort et la résurrection, il n'y a pas d'amoindrissement de sa personne. Il demeure ce qu'il est de tous les temps. Et notre problème à nous, au niveau temporel, c'est que de tous les temps, nous, on est juste un petit grain et que de tous les temps, c'est pas possible, on ne peut pas le penser. C'est pas possible pour notre raison humaine de penser cela, de tous les temps. Mais de quel tout le temps ? Parce qu'on veut un commencement et on veut une fin. Parce que notre vie, elle a un commencement, elle a une fin. Et donc, et qu'on comprend la vie par une multitude de segments qui sont notre segment, le segment de nos parents, de nos grands-parents et des générations qui nous ont précédés. Et que de fait, tout temps, ça n'entre pas dans notre logique et dans notre rationalité. Et je comprends que ce soit une difficulté. Ce soit une difficulté, y compris la difficulté de penser que ça perdurera après nous. Il me semble, d'un point de vue spirituel, ça demeure le fait de dire, enfin là on vient de fêter là tout ça, enfin c'est un moment propice et plutôt apaisant, moi je trouve, dans la fête chrétienne, d'avoir ce sentiment de, et puis cette conscience que, ben voilà, il y a des générations avant nous, c'est que nous on va passer, et je trouve qu'il y a quelque chose d'apaisant en cela, c'est-à-dire que, ben oui, c'est apaisant parce que ça nous échappe. Ben si ça nous échappe, ben on ne se crispe pas. C'est un petit peu, voilà, je vous livre ça, ma réflexion, là, cette fête, c'était de prendre conscience de ça, c'est-à-dire, ben voilà, ils étaient là, ils sont passés, ils ne sont plus là, et pourtant on pense à eux, et puis ça va continuer, et puis finalement, ben si on n'est plus là, ben c'est pas si grave que ça. Enfin, quelque chose d'apaisant, quelque chose qui fait que, ben, on est une somme de segments et puis que ça continuera. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est, je vous livre ma réflexion personnelle sur ça, mais et je trouve que ça nous libère d'une temporalité. Ça nous libère du temps qui passe. Ça nous libère de notre vieillesse. Enfin, vous voyez, enfin tout ce qui nous ramène vers la fin. Je trouve ça plutôt, encore une fois, vraiment, vraiment apaisant. Vraiment, vraiment. De manière, pour récapituler, Voilà, je pense qu'il faut comprendre que l'incarnation, pour comprendre l'incarnation même, comprendre ce qu'elle est, il faut repartir du Christ, toujours repartir du Christ. Vous allez me dire, bah, c'est normal, l'incarnation, c'est le Fils de Dieu. Mais si on ne repart pas de l'incarnation, on ne comprend pas qui est le Christ comme Fils de Dieu, et surtout, on comprend moins bien la Trinité, puisqu'il n'y a pas de Trinité sans incarnation, sans le Fils.
Est-ce que vous pourriez commenter cette expression de Fils de Dieu ? D'où sort-elle ?
Alors,
pourquoi Fils plutôt que autre chose ?
Alors, pourquoi Fils plutôt qu'autre chose ? D'abord Fils parce que Jésus ne vient pas d'autre part que de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas vraiment un terme théologique quand je vous dis d'autre part. Mais si le Concile de Nicée a dit que le Fils ou que Jésus était consubstantiel au Père, c'est parce qu'il était bien de la même substance que le Père. Dès l'instant où Dieu existe et qu'il décide de s'incarner, ou de faire en sorte que le verbe, que la parole se fasse chair, c'est que le « je » de Dieu veut s'adresser à un autre que lui. Il se trouve que Jésus, c'est un autre que Dieu, et en même temps, c'est le même que Dieu. C'est un paradoxe qu'a soulevé Chalcédoine. C'est le seul, donc ça veut dire qu'il est l'unique, donc en étant l'unique, il est le Fils. Il est l'unique et en même temps il est le même. Vous voyez bien que c'est paradoxal. S'il est le seul, il peut pas et unique, il peut pas avoir un même. Et pourtant il est le seul et le même. Donc l'idée que ce je décide à un moment donné de s'adresser à un tu, à un autre que lui qui est le même, Jésus-Christ ou Jésus, ou le Fils, fait que cette action-là, elle devient une action encore pour un autre, parce que l'autre, c'est le « il », c'est l'esprit, qui va mettre en action la révélation, la manifestation, la rédemption, l'incarnation, la résurrection. Est-ce que vous comprenez mieux là le Fils ? Pourquoi le Fils ? D'abord parce que Dieu, c'est le principe premier. Et le principe premier pourrait pas avoir un cousin. Enfin, vous voyez ? Pourquoi le Fils, c'est pas autre chose ?
Je ne sais même pas s'il faut se poser la question, parce que les évangiles disent c'est le Fils de Dieu.
C'est le Fils de Dieu.
Donc, voilà quoi. Si on commence à vouloir se poser la question pourquoi Marc, Luc, machin, etc., ils ont dit ça.
Oui, voilà, mais en même temps, la question de votre collègue. Elle a ça pour elle, c'est qu'elle pose l'originalité de la religion chrétienne. Dieu a un fils. Ça, c'est une des originalités de la foi chrétienne. Dieu a un fils et l'action du fils est mise en œuvre par l'esprit. Ça, c'est une des originalités de la foi chrétienne.
Est-ce qu'on peut dire que le fils procède du père ?
C'est l'esprit qui procède du père et du fils.
Mais on
ne
peut pas dire que le Fils procède du Père.
Non. Il fait la volonté de son Fils. C'est l'Esprit qui procède du Père et du Fils.
Je sais.
Voilà. Il y a un déplacement, hein, pour ces
derniers. Ça, c'est pour dire que Dieu n'est pas un être solitaire. Finalement, il se
dit. Oui, Jean-Noël Besançon dit ça. Il y a un titre de son livre qui s'appelle Dieu n'est pas solitaire.
De qui ?
Jean-Noël Besançon. Ah. Oui. Bon. Alors, j'en étais arrivée là. J'en étais arrivée à Karl Barth, le grand théologien protestant. Karl Barth, vous savez écrire Barth, B-A-R-T-H, 1886-1968. Il dit que Dieu, en tant que Dieu, précisément, soit capable de s'abaisser aussi lui-même, qu'il soit disposé à le faire de bon gré. Tel est, sous cette forme concrète souvent méconnue, le mystère de la divinité du Christ. La divinité du Christ n'est nullement celle d'un être divin doté de n'importe quels attributs suprêmes. On a rendu inutilement difficile, ou parfois trop facile. Cette proposition christologique essentielle, en la condamnant souvent à rester stérile, parce qu'on est passé à côté de sa signification concrète, c'est-à-dire parce qu'on a négligé de chercher le contenu de la notion de divinité, dans le Nouveau Testament, étroitement lié à l'Ancien, et par conséquent en Jésus-Christ lui-même. Pour définir la divinité de Jésus-Christ, on n'a pas le droit de recourir à l'idée générale d'un être suprême absolu, sans rapport avec le monde. Non, il s'agit simplement de se mettre à l'école du Christ et de fixer son attention sur ce qui s'est passé en lui. Autrement, le mystère que constitue sa divinité serait un mystère arbitrairement conçu, imaginaire, inauthentique. Il ne serait justement pas le mystère que nous présentons, que nous présente la parole et la révélation de Dieu telles qu'elles sont attestées par la Bible. Pour savoir qui est le vrai Dieu et ce qu'il est, c'est-à-dire quelle est la nature divine, qui est aussi celle de Jésus-Christ, s'il est vrai Dieu, nous n'avons qu'une seule possibilité, partir du fait que Jésus-Christ est également vrai homme et qu'il participe ainsi à la nature humaine. Autrement dit, nous avons à déduire sa divinité de son humanité, de son incarnation, de ce qu'il a souffert dans la chair en tant qu'homme. Car, disons-le carrément, le miroir dans lequel on peut reconnaître, où l'on reconnaît en fait qu'il est Dieu et l'essence divine et d'essence divine, c'est son incarnation, c'est-à-dire son existence dans la chair. Voilà. Vous relirez ce texte pour vous-même. Voilà. Parce que son existence dans la chair, quand on dit que, quand Karl Barth écrit « En fait, Jésus-Christ est Dieu et d'essence divine, c'est son incarnation, son existence dans la chair », eh bien on peut dire que dans cette existence dans la chair, rien ne manque à Jésus. C'est-à-dire rien ne manque de sa divinité. Sa divinité, elle est complète. Elle n'est pas ce que je vous disais, elle n'est pas amoindrie. Elle est effective et donc sa médiation, en tant que fils de Dieu, elle est totale. Elle est efficace, elle est immédiate. Donc la chair, entre guillemets, va jouer un rôle particulier pour la médiation, au titre même de l'humanité. C'est la chair, et c'est par elle que nous pouvons comprendre théologiquement le salut, c'est-à-dire l'incarnation et donc l'humanité de Jésus sont à saisir, et vos questions nous ont amené là-dessus, sont à saisir dans un principe économique du salut. Vous voyez ? C'est-à-dire l'incarnation dans l'humanité, dans la chair, c'est-à-dire que l'humanité est aussi un principe économique du salut. Le Verbe se fait chair. Et c'est ce qui fait que la médiation est efficace, que l'on peut aller vers le Père en passant par le Christ. Le seul bémol l'erreur qu'on ne doit pas faire, c'est que le Christ assume bien sûr l'humanité et les réalités humaines, sauf le péché. Voilà. Il n'assume pas le péché. C'est pas une réalité humaine qu'il assume qui serait portée vers le mal et le péché. Non, c'est une réalité humaine qui est hors de toute inclination au péché. Ce qui fait que le Fils, et là je reprends les termes de la théologie de Balthazar, le Fils devient une figure de médiation. Il est lui-même médiation parce qu'il est le message. Et en même temps, il est le contenu du message. Vous voyez, ce n'est pas un messager. Ce n'est pas quelqu'un d'extérieur comme un prophète qui serait extérieur à Dieu, qui est mandaté par Dieu pour délivrer un message de salut. Le Christ, il est lui-même le message. Il est le contenu et le contenu du message. Donc, il est en lui-même une figure de médiation. Et quand on dit figure de médiation, ça nous renvoie à l'Ancien Testament, où on va avoir un lien parce que on sait ce qu'est la figure prophétique, par exemple. La figure prophétique, c'est l'homme qui va annoncer à d'autres le message qu'il a reçu personnellement de Dieu, mais qui n'est pas pour lui personnellement, il l'a reçu lui-même, mais c'est une parole qu'il a à redire à d'autres, un message qu'il a à redire. Donc on sait ce qu'est la figure prophétique ou la figure du serviteur souffrant dans Isaïe. Eh bien là, en théologie, on peut aborder la question de la figure de médiation. Jésus est le médiateur, alors on peut comprendre théologiquement ce qu'est une figure de médiation. C'est notre point de deux. Non, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc on peut comprendre la figure de médiation de Jésus-Christ à deux conditions. La première, c'est parce qu'il faut considérer qu'il y a une unité dans sa figure. Dans cette figure de médiation, il n'y a pas de séparation. Il y a bien une unité. Comme il y a une unité entre le Père et le Fils. Ensuite, c'est toujours en raison de cette unité, eh bien, la figure ne peut pas être fragmentée. Pardon. C'est parce qu'il y a une unité entre le Père et le Fils que cette unité ne peut jamais être fragmentée. Ça veut dire qu'il y a une unicité dans la figure de médiation. Et cette unicité fait qu'elle a un caractère unique. Ce n'est pas une figure de médiation comme les autres. Nous-mêmes, nous pouvons être une figure de médiation. Par exemple, une grand-mère peut être pour son petit-fils une figure de médiation par rapport à différentes choses de l'éducation ou une figure de médiation, la figure de médiation des parents. Par exemple, les parents vont passer par la grand-mère ou par les grands-parents pour venir instruire un petit enfant. Ça, c'est une figure de médiation. Mais ça, et là, on peut fragmenter les choses. Et le parent lui-même peut être figure de médiation pour quelqu'un d'autre. Et nous-mêmes, nous pouvons l'être pour d'autres personnes. Là, l'unicité de la figure de médiation du Christ fait que c'est une figure de médiation unique, qui n'est pas comparable à d'autres figures de médiation, à des figures humaines de médiation. Parce que cette figure humaine, elle va manifester Dieu. Manifester Dieu en son Fils, et que cette figure de médiation, elle fait partie de l'acte de Dieu lui-même. Ça veut dire que ça va intégrer le mouvement économique dont on parlait tout à l'heure. La médiation fait partie aussi d'un mouvement, de quelque chose dont Dieu, alors avec tous les guillemets possibles, va se servir. Vous voyez bien, le terme est plutôt, c'est pas non plus un terme théologique. Dieu va se servir d'eux, mais on peut dire Dieu utilise la figure de médiation compréhensible par les hommes pour faire de son Fils une figure unique de médiation, parce que cette figure-là, elle est unique. Et ce n'est pas simplement une figure de médiation, mais on pourrait dire même que c'est une figure de rédemption. Ce qui permet au théologien Balthazar d'affirmer que la figure de Dieu est là pour marquer son empreinte sur d'autres figures. Et il nous dit, tout réside dans ce processus, et c'est pourquoi il est bon, il est non seulement difficile, mais impossible de considérer le sceau lui-même avant l'acte par lequel il s'imprime. En quelque sorte, c'est à partir de ce qu'il fait que nous voyons ce qu'il est. C'est cette phrase-là qui est importante, en fait, à garder. C'est-à-dire que la figure, elle est là pour marquer son empreinte sur d'autres figures, parce que nous pouvons comprendre ce qu'est une figure de médiation. Mais la dernière phrase la plus importante, c'est, c'est à partir de ce que Dieu fait pour les hommes, en parlant, en s'incarnant, en ressuscitant le Fils, que nous voyons ce qu'il est.
Ça veut dire que Jésus est intrinsèque à Dieu lui-même, quoi.
Il fait partie de son être même. Il est l'être même de Dieu.
Non, mais ça pourrait être dit plus simplement, ça veut dire, là, quand vous dites, là, c'est très clair. Parce que considérer le soin lui-même avant l'acte par lequel il s'imprime, c'est un peu...
Oui, c'est un petit peu plus compliqué.
Enfin, c'est pas utile.
C'est un peu plus compliqué.
Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour les autres figures ?
À part la figure
du sceau, là, oui.
Du Christ ?
Oui. Il y avait là pour marquer son empreinte sur d'autres figures.
Ah bah sur toutes les figures, figures prophétiques, toutes les figures que l'on peut. Je vous parlais, oui, du serviteur souffrant. Il y a bien d'autres figures de médiation. Même dans le Nouveau Testament, on peut voir d'autres figures de médiation.
Comme il révèle les choses,
il y a des visions.
Il révèle les figures.
Les visions.
Oui, pourquoi pas, les visions, l'audition. Ouais. C'est-à-dire, avant de voir... Par exemple, là, on pourrait dire ça. Avant de considérer la vision ou de considérer l'audition, Balthazar nous dit... Considérons l'acte lui-même, c'est-à-dire l'acte de faire voir et l'acte d'entendre. L'insistance de Balthazar ici, elle est à la fois sur l'action et sur l'être, pour bien nous montrer que l'être en lui-même, l'être de Dieu, il est action en lui-même. L'être de Dieu n'est pas un être passif. Dieu ne reste pas silencieux. Dieu ne reste pas dans le néant, dans le chaos. Vous voyez ? Dieu organise le chaos, crée le monde, si on reprend les termes de la Genèse. Donc, il y a une adéquation, une coïncidence entre ce que Dieu est et ce qu'il fait, entre de ce qu'il est et ce qu'il décide de faire. Une adéquation entre ce qu'il est et sa volonté. Il n'y a pas de séparation en lui.
Là, on peut prendre la phrase du sceau, alors.
Et lorsque Balthazar parle de la figure de Jésus, de la même façon, il n'y a pas de séparation dans sa compréhension de la figure de Jésus, il n'y a pas de séparation entre ce qu'il est comme fils de Dieu et homme, et son action comme fils de Dieu. Vous voyez ? S'il y a toujours une coïncidence, quelque chose qui est... Je ne sais pas comment... Qui fonctionne, qui ne peut pas fonctionner autrement. C'est comme, je ne sais pas, il y a un émetteur et un récepteur. Enfin, mais entre les deux, il y a des ondes. Mais ce n'est pas ça, Dieu. Vous voyez, l'exemple, il n'est pas bon. Entre le Père et le Fils, c'est une intimité totale. Et efficace et immédiate, et que cette efficacité immédiate du Père, elle est transmise totalement au Fils. C'est pour ça que le Fils peut guérir, qu'il peut faire des miracles, qu'il peut...
Il y a la prière entre les deux, quand même.
Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a la prière entre les deux. Oui, c'est vrai.
Il y a la parole.
Oui, c'est vrai. Et il prie le Père, non pas comme un homme, mais comme un fils. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire qu'il prie le Père, il prie son Père, comme s'il n'y avait pas de différence entre les deux, parce qu'il n'y en a pas, mais en même temps, dans la réalité humaine, quand on parle de la souffrance de Jésus qu'il va assumer, il prie le Père... un peu comme s'il était extérieur. Il y a quelque chose de cela dans la prière. Parce qu'on prie un autre. Mais vous voyez, on est quand même ramené au fait qu'il prie un autre et en même temps, il est le même. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais séparer. Vous voyez bien que l'erreur serait tout de suite de dire ben, il prie un autre, il prie le Père, donc ça veut dire qu'il est extérieur au Père. Mais en fait, très vite, on dit non, mais non, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Parce qu'il prie l'autre, mais l'autre est aussi le même que lui.
C'est quand même assez mystérieux. Ça.
Oui, sauf que cette prière de Jésus, elle est peut-être pour lui, mais elle est aussi surtout pour nous. Cette prière de Dieu pour son Père, elle nous montre ce que les hommes doivent faire aussi, doivent aussi prier le Père. Et de fait, il nous a laissé cette prière. Lorsque vous priez le Père, dites « Notre Père ». Et il nous montre l'exemple. En fait, la personne de Jésus, c'est à la fois le médiateur, la figure de la médiation, mais c'est aussi celui que nous devons suivre. Il se pose dans le monde comme celui, comme le modèle, en fait, comme celui qui se livre à nous. Ben, faites comme moi, en fait. Si vous voulez être sauvé, suivez-moi. C'est ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. Nul. Il est le chemin, il est la vérité, la vie.
C'est quand même très dur, de vous à moi. C'est pas la peine de se voiler le
cœur. Ouais, ouais.
C'est extraordinaire. Si on a une difficulté quasiment.
Voilà, alors je. Est-ce que ça va, la réponse à ma question? Est-ce que elle. Voilà. Alors je regarde l'œuvre. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. La partie 3, la partie 2-3, la figure médiatrice du Christ ressuscitée aux autres figures de médiation. Alors, j'ai mis qu'on pouvait repartir du terme d'accomplissement pour comprendre les autres figures de médiation. C'est-à-dire que si l'accomplissement est la manifestation de Dieu invisible, puisqu'au départ Dieu est invisible, il se manifeste, il se révèle, le Dieu invisible se révèle par Jésus-Christ, en personne, puisqu'il est, il existe là, en personne, au milieu des siens, et bien il se manifeste aussi par sa mission. On en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va s'opérer en chaque homme la possibilité d'être à son tour une figure médiatrice. Et donc, le lien entre la figure médiatrice que tout homme peut devenir à son tour, eh ben c'est en raison du témoignage. Témoigner de sa foi, le témoignage de la foi chrétienne, c'est précisément une manière médiatrice et entre dans cette dimension de figure médiatrice. Donc c'est là où la figure du Christ va rejoindre pour Balthazar d'autres figures, y compris la figure du témoignage. Et vous-même, en témoignant de votre foi ou de l'existence de Dieu ou de la mort et de la résurrection du Christ, vous témoignez, vous prenez la figure du témoin qui témoigne de cela. Et donc je vous ai mis le texte 9 à la fin de, puisque j'arrive à la fin du cours, donc de Théodore de Régnon, qui est cité par Henri de Lubac dans son livre sur les chemins de Dieu, où il dit: le Créateur a dispersé sur les créatures les reflets de ses perfections divines, et que grâce à ces lumières visibles, nous pouvons connaître par voie d'analogie les splendeurs inaccessibles du Créateur. Donc, en se donnant, la figure du Christ en se donnant, eh bien, elle va laisser son empreinte, d'abord dans les hommes de son groupe, puis dans les premiers chrétiens, eh bien, va laisser l'empreinte pour que chacune et chacun devienne à son tour une figure médiatrice du Christ lui-même. Mais pour autant, ces figures diverses ne se confondent pas avec la figure unique médiatrice du Christ. Donc pour terminer, j'avais écrit que l'incarnation est donc un acte d'extériorisation du Père en son Fils par la puissance de l'Esprit, on en a parlé tout au début, que l'incarnation est un acte trinitaire à comprendre dans l'unicité de l'Esprit du Père et du Fils. Et on doit comprendre l'incarnation comme un don, comme une union et aussi comme une onction. Que Jésus-Christ est l'envoyé du Père pour le salut de tous les hommes, et ça vous l'avez bien compris, et que ça ne peut pas être confondu, et que ce salut, enfin, que l'envoyé ne peut pas être confondu avec les prophètes de l'Ancien Testament qui, eux, sont des envoyés. Ils sont aussi des envoyés, mais pas de la même manière que le Fils est envoyé par le Père en tant que le Verbe incarné. Parce que pour les prophètes, leur engagement, l'engagement de leur parole, qui est la parole de Dieu, c'est un engagement extérieur, ce qui n'est pas le cas du Fils de Dieu, en raison même de l'unicité entre le Dieu, entre le Père et le Fils. C'est-à-dire que les prophètes ne vont pas s'identifier à la mission, parce que les prophètes ne sont pas la mission, alors que le Fils, il est en lui-même la mission qu'il doit accomplir. Il est en lui-même la mission, il est en lui-même la réalisation et l'accomplissement de la révélation de Dieu. Et donc je terminerai juste par un texte de Balthazar dans sa trilogie la Dramatie divine, où il dit « L'unicité de la personne de Jésus vient s'exprimer par la double unicité de sa relation trinitaire au Père » et du but sotériologique, c'est-à-dire du salut de sa mission. Sa mission est en vue du salut. Et alors, les deux choses ne sont pas juxtaposées sans relation. Au contraire, la liaison intime de l'envoyé avec celui qui l'envoie possède la forme de l'obéissance au sein de l'acte de don du Père. Le Père est celui qui envoie et qui, par l'acte de mission, fonde toute l'existence de Jésus sur terre, en assume la responsabilité et l'accompagne, détermine enfin d'avance son but, et son but, c'est le salut du monde. C'est pourquoi la connaissance que Jésus a de lui-même, hein, tout à l'heure, quelqu'un posait la question de la conscience, ou c'était un cours avant, je ne sais plus. Non, c'était un cours de ce matin. On me demandait est-ce que Jésus avait conscience d'être le Fils de Dieu, ce qui est une très bonne question théologique. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la connaissance que Jésus a de lui-même coïncide avec la connaissance de sa mission. Ça, c'est important. La connaissance qu'il a de lui-même, la conscience qu'il a de lui-même, c'est la conscience de sa mission. Parce que sa mission, il l'a reçue du Père. Vous voyez, alors là, bien sûr, que là, Balthazar n'utilise pas le terme de conscience, mais de connaissance, et que le terme de conscience, il n'a pas lieu ici, parce que ça ne peut pas se poser en ces termes-là. La conscience, on tient ça de Freud, on a conscience, voilà, c'est quelque chose qui est en nous, et en même temps, dont on prend conscience en extériorisant ce qui est intérieur à nous. Donc, ce n'est pas du tout le cas ici. Mais vous voyez bien, si on veut parler de connaissance de Jésus, bien la connaissance qu'il a de lui-même, il la tient du Père et il la tient essentiellement de la mission que le Père lui a confiée dans l'obéissance, dans la forme de l'obéissance, nous dit Balthazar un petit peu plus loin, au sein de l'acte du don du Père. Ça veut dire que le Père se donne en la personne de Jésus qui est obéissant au Père et qui connaît le Père en raison de la mission que le Père lui confie. Voilà. Bon, ça fait une belle pelote. Encore à démêler. Voilà.